depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le Détroit. 366 pièces de batik font partie de la collection du plus grand musée d'anthropologie d'Autriche. Le premier musée MotoGP au monde a été inauguré au circuit de Mandalika. Le ministre indonésien des Affaires étrangères demande « Comment le monde peut-il croire le discours de Netanyahu ?» HIPMI considère l'Indonésie comme une destination d'investissement compétitive. Le ministère de la Religion encourage le développement de mosquées respectueuses de l'environnement à travers ISIM 2024. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Au total, 366 pièces de batik indonésien font partie de la collection du plus grand musée d'anthropologie d'Autriche, le Weltmuseum de la ville de Vienne. Ce musée, fondé en 1876, est situé dans le palais de la Hofburg et conserve plus de 400 000 objets ethnographiques et archéologiques d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et des États-Unis. Des centaines de collections de batik sous forme de sarong et de longs tissus conservés dans le musée proviennent de diverses régions d'Indonésie, dont Cirebon, Yogyakarta, Solo et plusieurs autres régions du Java central. Cité par Antara à Jakarta samedi, cette collection de batik a été obtenue grâce à une expédition à Jaffa en cadeau du Sri Sultan Hamengkubuwono et divers cadeaux offerts à ce musée. La plus ancienne collection de batik a été acquise en 1838. Le représentant du musée World Museum de Vienne, Jonathan Fine, espère que diverses collaborations avec l'association Wastra Prema pourront être encore améliorées, non seulement dans les collections de batik, mais aussi dans divers Wastera en Indonésie. Le premier musée MotoGP au monde a été inauguré samedi au circuit de Mandalika, la région Lombok Central à Nusa Tenggara de l'Ouest. Comme l'a rapporté Antara à Jakarta samedi, Maya Watono, directrice du programme de marketing et de tourisme de In Journey, a déclaré que l'inauguration de la Pertamina MotoGP TM Experience Gallery renforce non seulement la position de Mandalika en tant que destination de cours internationale, mais apporte également une contribution majeure au secteur du tourisme à Lombok Central. La Pertamina MotoGP Experience Gallery propose divers souvenirs du monde du MotoGP, tels que des casques, des mini-vélos et d'autres objets emblématiques autrefois utilisés par les coureurs. En dehors de cela, diverses installations et activités numériques interactives dans le Kids Corner ou Race with Willy, ainsi que des maquettes de circuits en réalité augmentée dans la zone de Twists and Turns, ainsi qu'un laboratoire miniature de Pertamina. En termes d'aménagement, ce musée dispose de plusieurs galeries principales, dont la galerie sud qui fait office de salle polyvalente pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes. Pendant ce temps, la galerie nord de Pertamina MotoGP Experience Gallery offre une expérience approfondie du monde du MotoGPTM avec diverses zones interactives et informatives. Les visiteurs peuvent voir la vitesse extrême des motos GP dans la zone jusqu'à 366,1 km par heure et vivre l'excitation du coin des enfants, une activité éducative conçue spécifiquement pour les enfants. Ce programme est la propriété intellectuelle de Dorna à travers une installation interactive dans cette galerie. Le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi a répondu au discours du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de la séance de débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les deux discours étaient programmés un jour plus tard. Netanyahu était sur le podium de l'Assemblée générale vendredi dernier. Un jour plus tard, samedi, Retno a prononcé son message lors du même forum au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis. Lors de son discours, Retno Marsudi a remis en question le discours de Netanyahu qui parlait de paix alors qu'Israël menait des attaques aériennes massives à Beyrouth. Selon Retno, la voie que doivent emprunter les pays du monde est de faire pression sur Israël pour qu'il revienne à la solution politique, la solution à deux États. Il a également exhorté les pays qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine à exprimer immédiatement leur reconnaissance. Selon lui, cette reconnaissance signifie investir dans un monde plus pacifique, plus juste et plus humain. L'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs, ou en indonésien Himpunan Pengusaha Muda ou abrégé en HIPMI, a révélé que l'Indonésie est une destination d'investissement compétitive pour les investisseurs étrangers. Le secrétaire général adjoint du HIPMI, Anthony Leong, a souligné l'importance de la collaboration entre les pays membres de l'ASEAN pour renforcer le climat d'investissement dans la région, notamment en Indonésie. Rapporté par Antara Jakarta samedi, il a expliqué que les dernières données montrent que la réalisation des investissements en Indonésie au premier semestre 2024 a atteint 829,9 billions rupiah ou environ 54 milliards de dollars américains. Ce chiffre reflète la confiance mondiale dans le potentiel économique de l'Indonésie et donne une image positive de la stabilité et de l'attractivité des investissements dans ce pays. Il a également souligné le rôle de la transformation numérique dans la simplification du processus d'investissement. Selon lui, grâce aux services d'investissement à guichet unique, les procédures d'investissement étrangères sont désormais beaucoup plus simples et efficaces. Il a également déclaré que l'Indonésie était prête à devenir un partenaire stratégique pour les investisseurs internationaux. Le ministère indonésien de la religion encourage le développement d'innovations dans les mosquées respectueuses de l'environnement à travers le symposium international sur les mosquées innovantes, ou abrégé en ISIM, qui aura lieu à Surakarta du 1er au 3 octobre 2024. Cité par Antara Jakarta samedi, le directeur par intérim des affaires religieuses islamiques du ministère indonésien de la religion, Ahmad Zayadi, a déclaré que ISIM 2024 était une étape importante pour réaffirmer le rôle des mosquées en tant qu'institution qui s'adapte au développement actuel. ISIM 2024, a déclaré Zayadi, mettra également l'accent sur l'importance de développer des mosquées respectueuses de l'environnement en termes d'efficacité énergétique. ISIM 2024 se déroulera sous forme de séances de présentation, de critiques de livres et de discussions avec des experts dans le domaine des mosquées et du développement environnemental. ISIM 2024 organisera également une exposition de photos de mosquées respectueuses de l'environnement et le prix de mosquées modèles et conviviales auxquels participeront diverses mosquées de toute l'Indonésie. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine intitulée « Le ministère indonésien des Affaires étrangères assure que les troupes du TNI sont prêtes à évacuer les citoyens indonésiens du Liban ». Le ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré que les troupes du TNI, membres de la Force de paix des Nations Unies au Liban, ou abrégées en FINUL, sont prêtes à participer aux opérations d'évacuation des citoyens indonésiens qui sont toujours au Liban. Le directeur de la protection des citoyens indonésiens et du BHI au ministère indonésien des Affaires étrangères, Judah Nugraha, a confirmé que cette question avait été discutée lors d'une réunion technique entre le ministère des Affaires étrangères et le TNI concernant l'évolution de la condition des troupes du TNI à la FINUL et la protection des citoyens indonésiens au Liban. Cité par Antara à Jakarta jeudi, Judah a souligné que si la situation s'aggrave, les troupes du TNI de la FINUL sont prêtes à apporter leur soutien au processus d'évacuation des citoyens indonésiens au Liban. Il a déclaré que si un processus d'évacuation des citoyens indonésiens avait lieu, les troupes du TNI de la FINUL se coordonneraient avec le commandant de la force de la FINUL. Judah a également confirmé qu'actuellement, 155 citoyens indonésiens vivent encore au Liban. La majorité d'entre eux sont des étudiants et des citoyens indonésiens mariés à des résidents locaux. La situation sécuritaire au Liban est devenue de plus en plus tendue après que les troupes israéliennes ont attaqué le territoire libanais via des frappes aériennes depuis le début de cette semaine sous prétexte de cibler le groupe Hezbollah. Les autorités libanaises ont rapporté que près de 610 personnes tuées, de plus de 2000 civils blessés et de dizaines de milliers d'autres déplacés à la suite de l'attaque israélienne. L'ambassade d'Indonésie à Beyrouth a défini le statut d'alerte 1 pour les citoyens indonésiens dans tout le Liban. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a également conseillé aux citoyens indonésiens de reporter leur voyage au Liban et en Israël. Outre le nombre enregistré de citoyens indonésiens, il y a également environ 1000 soldats du TNI membres de la FINUL au Liban. Ces soldats du TNI ont servi dans diverses unités de la FINUL, notamment la Force opérationnelle maritime ou MTF, la Force opérationnelle du bataillon mécanisé de la TNI ou INDOBAT et l'unité de soutien de quartier général de la Force ou FHQSU. Ils ont également été affectés au groupe de travail Indo Force Protection Company, au groupe de travail de coordination civilo-militaire du TNI, au groupe de travail de l'unité de sensibilisation de la communauté militaire et au groupe de travail sur les hôpitaux de niveau 2. La plupart des soldats du TNI membres de la FINUL opèrent sur terre, tandis que le groupe de travail MTF exerce ses fonctions en mer. C'est tout la mise au point de la semaine.
Yeah. tangga tulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia, yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, l'histoire d'aujourd'hui, le 29 septembre. On commence par le 29 septembre 1955, l'Indonésie organise ses premières élections générales. Trois mois après l'indépendance, le gouvernement indonésien de l'époque avait exprimé son souhait d'organiser des élections au début de 1946. Cela a été déclaré dans Maklumat 10 ou la déclaration du vice-président Mohamed Hatta du 3 novembre 1945 qui contenait des recommandations pour la formation de partis politiques. La déclaration indiquait que les élections pour élire les membres du DPR et du MPR auraient lieu en janvier 1946. Cependant, pour diverses raisons, les nouvelles élections générales n'ont pu avoir lieu que le 29 septembre 1955. Selon KPU.go.id, elles se sont déroulées avec succès, en toute sécurité, sans heurts, honnêtement, équitablement et ont été très démocratiques. Les élections de 1955 ont même reçu les éloges de divers partis, y compris de pays étrangers. Cette élection a réuni plus de 30 partis politiques et plus d'une centaine de listes de groupes et de candidats individuels. Plus de 37 millions d'électeurs ont voté pour 257 sièges de la DPR. Le 29 septembre 1957, la catastrophe de Kistim. La catastrophe de Kistim est un incident de contamination radioactive survenu le 29 septembre 1957 à Amayar, un site de production de plutonium en Russie pour l'usine d'armes nucléaires et de retraitement de combustible nucléaire de l'Union soviétique. Cet incident en fait le troisième accident nucléaire le plus grave jamais enregistré après la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi et celle de Tchernobyl. La catastrophe de Kistim s'est produite dans la ville d'Oziors, l'oblast de Chelyabinsk, une ville fermée construite autour de l'usine Maillard, et a propagé des particules chaudes sur 20 000 milles carrés où vivaient au moins 270 000 personnes, avec 300 morts immédiates parmi les habitants de villages voisins. Le 29 septembre 2009, le tremblement de terre au Samoa. Le séisme de 2009 au Samoa, d'une magnitude de 8,3, s'est produit dans la région des îles Samoa le 29 septembre 2009 à 6h48 heure locale. Le tremblement de terre a déclenché trois vagues de tsunami distantes, dont la plus grande a atteint 1,6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une élévation du niveau de la mer de 76 mm a été enregistrée près de l'épicentre selon le centre d'alerte au tsunami du Pacifique à Ewa Beach, à Hawaï. Ce tremblement de terre s'est produit près de la zone de subduction Kermadec Tonga sur la ceinture de feu du Pacifique où convergent les plaques tectoniques de la croûte terrestre et où le tremblement de terre et l'activité volcanique sont fréquents. Le bilan s'élève à 189 morts et des centaines de blessés. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Lima am ke
chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voici mon Indonésie dont le titre est « L'Indonésie et la Russie discutent de plans de coopération dans le secteur du sport ». Afin d'améliorer la qualité des athlètes et du monde du sport en Indonésie, la Russie étudie des plans de coopération dans le secteur sportif. Concernant ce plan, l'ambassadeur de Russie en Indonésie, Sergei Tolsenov, citait mercredi sur le site internet du ministère de la Jeunesse et des Sports, a déclaré que la Russie avait des programmes sportifs et espérait collaborer avec l'Indonésie. Lors d'une visite au ministère de la Jeunesse et des Sports, l'ambassadeur de Russie, Sergei Tolsenov, a expliqué que la situation générale du sport en Russie à l'heure actuelle, ainsi que la manière dont le gouvernement de la Fédération de Russie, par l'intermédiaire du ministère des Sports, construit et développe les sports. L'ambassadeur Sergei Tolsenov, outre la jeunesse et le sport, a également discuté de l'agenda de la commémoration des relations diplomatiques de la Fédération de Russie avec l'Indonésie en 2025. À l'ordre du jour, l'un d'entre eux est que le gouvernement de la Fédération de Russie envisage organiser un match sportif amical entre les deux pays. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, a salué l'offre de coopération du gouvernement de la Fédération de Russie. Le ministre Dito a déclaré que l'Indonésie et la Russie entretiennent de bonnes relations depuis longtemps et que la proposition de coopération dans plusieurs sports est certainement quelque chose qui doit être suivi. Selon le ministre Dito Aryo Tejo, l'un des sports qui mérite une introduction plus large en Russie est le pencaksilat. En effet, l'Indonésie, par l'intermédiaire de son président élu Prabowo Subianto, qui est également président de la Fédération internationale de pencaksilat ou persilat, tente de garantir que ce sport d'arts martiaux indonésien original puisse être pratiqué aux Jeux olympiques. Dans le même temps, le ministère de la Jeunesse et des Sports a salué la proposition d'organiser des matchs sportifs amicaux et le désir de la Russie d'organiser des matchs sportifs amicaux entre les deux pays. On espère que ce match amical inclura non seulement le football, mais aussi d'autres sports potentiels, comme le volleyball, qui présente un grand intérêt pour le peuple indonésien. Voilà mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di renungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Aku duga bahwa akhirnya janjimu dan janjiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Bali n'est pas seulement un centre touristique, mais offre également de nombreuses choses qui peuvent être appréciées par tous ceux qui passent leurs vacances à Bali, comme la culture balinaise qui est encore forte et la cuisine traditionnelle qui éveille le goût des touristes, dont le lawar qui est un délice culinaire balinais traditionnel. Typiquement balinais, qui est un mélange de légumes et de viande hachée assaisonnée d'épices. Lawar était à l'origine utilisé pour servir lors de cérémonies à la fois traditionnelles et religieuses. Mais en fin de compte, cette nourriture est généralement servie dans les foyers balinais ou largement vendue dans les restaurants comme le lawar balinais. Chers auditeurs, le nom de lawar varie généralement en fonction du type de viande ou de légumes utilisés. Si on prend du poulet, alors on l'appelle lawar du poulet. Et si on utilise du jacquier, alors on l'appelle lawar du jacquier. Le nom peut également être donné en fonction de sa couleur. Par exemple, lawar rouge si la couleur de lawar est rouge, lawar blanche si la couleur de lawar est blanche. Et il existe aussi lawar padamare, qui est un type de lawar fabriqué à partir d'un mélange de plusieurs types de lawar. Chers auditeurs, pour faire de lawar balinaise, ce n'est pas si difficile. Coupez d'abord les haricots en morceaux d'environ 1 cm, puis réservez. Lavez les germes de soja en enlevant les racines. Écrasez 4 échalots, 3 gousses d'ail, 2 gros piments rouges, 3 cm de gingembre, 4 cm de galanga, 4 noix de bougie grillées, 1 quart de cuillère à café de poivre, 1 demi-cuillère à café de coriandre, 1 cuillère à café de pâte de crevettes grillées, 1 demi-cuillère à café de sel. Ensuite, vous pouvez continuer en chauffant l'huile, puis faites sauter les épices moelleuses jusqu'à ce qu'elles soient parfumées et cuites. Ensuite, ajoutez la viande hachée, remuez jusqu'à ce qu'elle soit légèrement sèche. Après cela, ajoutez la noix de coco râpée, remuez à feu doux jusqu'à ce que la noix de coco devienne sèche et commence à dorer, puis retirez du feu et laissez refroidir. L'étape suivante consiste à mélanger les haricots longs, les germes de soja et la sautée de poulet et de noix de coco. Ajoutez le jus de citron vert, remuez-les jusqu'à consistance lisse, puis servez. Parce que la plupart des ingrédients sont des légumes comme la carambole, le jacquier, la genoa de coco, la jeune papaye, aux épices typiques balinaises, le lawar ne peut pas durer longtemps. Bon, chers auditeurs, si vous allez à Bali, n'oubliez pas de goûter ces délices culinaires typiquement balinais lawar. Si vous aimez la nourriture épicée, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez demander quelque chose d'épice selon votre goût.
Takkan lupa aku menanti.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonjour à notre ami d'Algérie, Abdelkader Khalil. Merci beaucoup pour vos chaleureuses félicitations. Je vous apprécie vraiment. Et nous espérons également pour que vous soyez toujours en bonne santé, heureux et prospères. Merci à vous qui nous ont toujours écoutés et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La suite, écoutons la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur. L'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est « Nihi Sumba Resort » figure dans la liste des 50 meilleurs hôtels du monde. Nihi Sumba Resort fait partie de la liste des 50 meilleurs hôtels du monde en 2024, publié par le World 50 Best Hotel 2024 le 17 septembre 2024 à Londres, en Angleterre. Nihi Sumba Resort se classe 10e sur les 50 meilleurs hôtels du monde. Cet hôtel a également été inclus parmi les meilleurs hôtels du monde en 2023. Nihi Sumba Resort est un complexe situé sur l'île de Sumba, au district de Wanakaka, à Sumba de l'Ouest, la province de Nusa Tenggara de l'Est, précisément sur la côte sud. En activité depuis 2015, l'hôtel de 530 hectares ne compte que 27 villas conçues localement avec une combinaison d'éléments culturels. Il est également devenu le meilleur complexe hôtelier au monde selon le magazine Travel Blue Laser en 2016 et 2017. Cette station propose diverses activités, telles que des activités terrestres, maritimes, culturelles, culinaires, de santé et de voyage. Franz Tegu, directeur principal par intérim de l'agence exécutive de l'autorité de Labuan Bajo Flores, a exprimé son appréciation à l'hôtel Nihi Sumba pour sa réussite en étant inclus dans le top 50 des meilleurs hôtels du monde 2024. Il a également apprécié la contribution de Nihi Sumba Resort à diverses initiatives humanitaires axées sur l'autonomisation des communautés locales. Nihi Sumba, l'un des complexes hôteliers de Nusa Tenggara de l'Est, offre une expérience incroyable aux clients qui y séjourne. Ce complexe propose des services d'équitation en profitant de la plage exotique de Sumba. Récompensé pendant 2 années consécutives en 2016 et 2017 en tant que meilleur hôtel au monde par Travel Plus Leisure, Nihi Sumba est un exemple de destination touristique durable en harmonie avec l'environnement et les habitants de Sumba. En dehors de cela, les clients peuvent également suivre des cours de yoga ou de méditation et de relaxation. Unique, cette activité se fait avec des chevaux. La station a déclaré que les avantages de cette activité sont qu'elle peut réduire l'anxiété et le stress, notamment en termes de rafraîchissement mental et physique.
Yeah. Sebuah tembang pilihan, semoga bisa meredam segala kerinduan.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je vais parler d'une chanson de Liodra. Liodra Margareta Ginting, mieux connue sous le nom de Liodra, née le 21 juin 2003, est une chanteuse et actrice indonésienne originaire de Medan, Sumatra du Nord. Liodra a commencé sa carrière en tant que chanteuse professionnelle après avoir remporté un événement de recherche de talent sur une chaîne de télévision privée nationale en 2020. En 2024, le maestro de chansons romantiques Yovi Widianto invite Liodra à collaborer en rééditant la chanson Terlalu Cinta. La chanson Terlalu Cinta est une chanson créée par Yovi Widianto qui est sortie pour la première fois en 2006 et est devenue un succès lorsqu'elle est interprétée par Rosa. Maintenant, Yovi a choisi Liodra pour reprendre cette chanson parce que la voix de Liodra lui semblait parfaite pour cette chanson. Cette chanson sur le thème de l'amour avec une allure de ballade pop raconte l'histoire de sentiments tristes dus à un amour non partagé. Les paroles véhiculent un sentiment de désespoir et de tristesse de ne pas pouvoir avoir un être cher. Bon, chers auditeurs, voici Yovi Widianto et Liodra, dont le titre est Terlalu Cinta. Bonne écoute!
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku?
Menjauh dari angan tentang
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.